Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous continuons dans la Secunda Secundae, dans ce magnifique traité sur la charité. Nous en sommes arrivés dans cette Secunda Secundae, à la question 32, à l'article 6, doit-on faire l'aumône en donnant de son nécessaire? Vous avez le résumé, les parties importantes de cet article, sur le polycopier à la page 96. Ce sont des questions très importantes. Tous ces arguments de saint Thomas d'Aquin, encore une fois, n'ont pas pris une ride, malgré les siècles qui ont passé. N'oublions pas qu'il est écrivait ses textes autour des années 1272-73, juste avant sa mort, puisqu'il est mort avant d'avoir terminé la somme. Et tout ce qu'il dit est parfaitement valable pour aujourd'hui, surtout quand on nous rabat les oreilles de la soi-disant charité que nous devons avoir pour accueillir toute la misère du monde dans notre pauvre pays, sans se rendre compte que c'est un véritable suicide pour nous. Et donc, il faut savoir ce que l'Église catholique a enseigné dans ce domaine. Donc, la question est la suivante. Quelqu'un doit-il donner l'aumône avec son nécessaire? Bon. Donc, il y a des distinctions, évidemment, qui vont être faites. Le nécessaire peut être différent selon les personnes. Le nécessaire pour une personne de condition, par exemple, est supérieur au nécessaire d'une personne qui est une personne toute simple, nécessaire dans un cas de danger de mort n'est pas le même que le nécessaire dans un cas d'un simple danger. Donc saint Thomas va commencer par faire cette distinction. Il dit qu'une chose est nécessaire lorsque sans elle, on ne pourrait pas exister. On ne doit pas en faire l'aumône. Il est évident que si en donnant votre nécessaire, vous allez faire mourir vos enfants de faim, vous n'avez pas le droit de donner ce nécessaire. Dans certains cas particuliers, le bon Dieu pourrait demander un acte d'héroïsme, mais ce sont des cas particuliers. Et dans ce cas-là, il s'agit simplement d'un quelque chose qui regarde la charité et qui ne regarde plus strictement parlant la justice. Donc on va expliquer les différents cas. Voilà ce qu'il dit. Un homme qui n'aurait strictement que ce qu'il faut pour se sustenter, lui et ses enfants et les personnes dont il est chargé, ne pourrait pas faire l'aumône avec ce nécessaire. Ce serait ôter la vie à lui et aux siens. Rappelez-vous la formule bien connue, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Bon. Alors, il fait tout de suite une exception en disant « J'accepte le cas où il s'agirait de conserver la vie à une personne utile à l'Église ou à l'État. Car le bien général devant être préféré au bien particulier, il est louable de s'exposer soi-même ou d'exposer les siens pour procurer le bien public. Donc dans certains cas particuliers, en période de guerre par exemple, pour sauver une personne très importante pour la cité, ça peut être par exemple un chef militaire qui a absolument besoin d'être à son poste à l'armée pour que l'armée ne parte pas en débandade complète, eh bien on pourrait dans certains cas donner même de son nécessaire pour sauver une personne dont la vie est plus importante que la nôtre. Mais ce sont des cas d'exception. Encore une fois, rappelez-vous cette formule de saint Thomas, le bien général doit être préféré au bien particulier. En second lieu, dit-il, oui, il fait bien les distinctions qui sont nécessaires. Une chose est nécessaire parce que sans elle, on ne saurait, avec des personnes dont on est chargé, vivre convenablement selon sa condition. La limite d'un tel nécessaire n'est pas un point indivisible. On peut y ajouter beaucoup sans la dépasser, on retrancher beaucoup sans se mettre hors des convenances de son état. Faire l'aumône en présence sur ce nécessaire est une action digne d'éloge, mais c'est un conseil, non un précepte. Donc un conseil qui regarde non pas la charité, l'acte d'héroïsme en quelque sorte, non pas un précepte de justice. Et ce sont des choses importantes. Il faut donc être prêt, dans certains cas, à donner de son nécessaire si notre position sociale est telle que nous devons faire ce geste. C'est le cas, par exemple, imaginez un exemple classique qu'on donne tout le temps pour expliquer ce genre de choses. Imaginez quelqu'un qui soit en charge d'une cité et il y a la peste dans la cité. Bon, mais il est sûr que dans certains cas, bien, les personnes en charge, par exemple les prêtres, qui peuvent être en charge du bien spirituel de la cité, doivent s'exposer à des maladies, même contagieuses, pour venir en bien, en aide spirituelle aux âmes qui leur sont confiées. C'est exactement la même chose, par exemple, pour un médecin, dans une période d'épidémie, bon, qui va être devant, à qui on va demander des choses qui vont dépasser les choses toutes simples. Il va être obligé d'exposer sa vie, même si elle est vraiment nécessaire, pour essayer d'aider les corps qui sont dans la misère. Encore une fois, dans tous ces domaines-là, il faut utiliser le don de sagesse. Et une autre vertu, outre le don de sagesse qui va régler toutes ces choses-là, c'est la vertu de prudence. C'est la vertu de prudence qui va nous permettre d'agir en fonction des circonstances. Pourquoi ? Parce que chacun dans la vie a des convenances à garder. Alors évidemment, aujourd'hui, par les temps qui courent, dans ce monde moderne complètement pourri dans lequel nous vivons, les gens modernes ne peuvent plus comprendre ces choses-là, ont beaucoup de mal à les comprendre. Parce qu'ils vont vous dire, mais on est tous égaux. Mais non, justement, on n'est pas égaux. Et le traité sur la charité, comme le traité sur la justice, part de l'inégalité des personnes. Toutes les âmes sont différentes devant Dieu. Chaque âme a un rôle différent devant le bon Dieu. Le bon Dieu n'a pas donné à chaque âme les mêmes responsabilités. Le bon Dieu n'a pas donné la même taille, spirituellement parlant, d'âme à chaque personne. Et donc, la vertu de justice et la vertu de charité, il y a un lien entre les deux choses, la vertu de justice et la vertu de charité vont s'appliquer de façon différente selon les personnes. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre avec un exemple. Au Moyen-Âge, par exemple, il était interdit de s'habiller avec un certain type d'habit qui était réservé à une certaine classe sociale quand vous n'étiez pas de cette classe sociale. Par exemple, dans certains cas, des gens de noblesse, ce qu'on appelle de noblesse de robe, les gens de droit, par exemple, s'habillent d'une certaine façon. Les gens qui étaient en charge politiquement parlant avaient droit à une certaine tenue extérieure qui les faisait, les rendait différents des autres personnes. Il est évident qu'un roi, par exemple, même prenez un roi comme Saint-Louis, qui est pourtant un grand, grand saint, eh bien un roi comme Saint-Louis avait le devoir d'agir comme roi. Certes, il pouvait avoir un esprit de pauvreté, et très souvent, on voyait ça chez les saints-rois, les rois canonisés par l'Église, sous l'habit royal, il gardait la chemise de crin, il gardait la veste de crin pour faire pénitence. Vous voyez ? Mais encore une fois, il faut distinguer les choses. Alors aujourd'hui, les gens ne comprennent plus ces choses-là parce qu'ils veulent absolument qu'il y ait une égalité entre tous les hommes. Non, non et non. Il n'y a pas d'égalité entre les hommes. Les hommes sont tous différents. Les âmes sont tous différentes. Les enfants n'ont pas les pouvoirs des parents. Les pouvoirs des parents ne sont pas les devoirs des enfants. Le père a un rôle propre dans la société. La mère a un rôle différent dans la même société familiale. Et toutes ces choses-là sont extrêmement, extrêmement importantes à comprendre. Thank you. Voilà d'autres distinctions ici que fait saint Thomas d'Aquin. Voilà ce qu'il dit. Il donne des exceptions. Il dit « Chacun dans la vie a des convenances à garder. Il faut pourtant accepter trois circonstances. La première, dit-il, c'est lorsque, voulant embrasser l'état religieux, on donne ses biens aux pauvres pour l'amour de Jésus-Christ. Le changement d'état fait de cet acte une œuvre de religion. Il est évident que quelqu'un qui rentre dans un monastère, qui va se retrouver sous un vœu de pauvreté, va donner tout ce qu'il a à la religion dans laquelle il rentre, au couvent dans lequel il rentre, sauf s'il a des obligations en justice dans le monde, ou parfois même en charité dans le monde, à remplir avant de rentrer dans le couvent dans lequel il désire rentrer. C'est évident qu'un religieux qui voudrait, par exemple, rentrer, je ne sais pas, dans un ordre franciscain, par exemple, un ordre de pauvreté, devrait, avant de donner tous ses biens à l'ordre dans lequel il veut rentrer, payer ses dettes. C'est le même cas pour chacun d'entre nous. À partir du moment où on veut, par exemple, rentrer en vie religieuse, même simplement la vie cléricale, je voudrais rentrer au séminaire, par exemple, avant de rentrer au séminaire, j'ai le devoir de payer les dettes que j'ai à ma charge. Et si j'ai des obligations financières, un prêt, par exemple, que je dois rembourser à une banque, eh bien, je suis tenu de rembourser cet emprunt que j'ai fait pour ne pas gréver, si vous voulez, les finances de l'ordre religieux dans lequel je veux rentrer. Oui. Donc, dans un cas comme cela, par exemple, si je veux rentrer dans un ordre religieux qui fait vœu de pauvreté, il est évident que je dois donner tout ce que j'ai auparavant, soit aux pauvres, soit à l'ordre dans lequel je rentre, selon les constitutions, c'est différent à chaque cas. Deuxième cas, deuxième circonstance, dit saint Thomas, quand on peut facilement se racheter d'un sacrifice de telle sorte qu'il n'en résulte pour soi-même, pas pour soi un très grave inconvénient. Je donne une partie de mon nécessaire, mais je vais pouvoir très rapidement retrouver ce bien qui m'est nécessaire parce que j'attends par exemple un don important qui va me permettre de renflouer immédiatement la caisse et je pourrai continuer de remplir mon devoir d'État. Troisième cas. Le cas d'une extrême nécessité dans un indigent ou d'une grande calamité au sein de la République. Il est louable dans de telles circonstances de sacrifier pour venir au secours des autres, ce qui semble exiger la dignité de notre condition. Encore une fois, dans certains cas, le bon Dieu peut demander un acte d'héroïsme. Un acte d'héroïsme même au détriment de sa famille ou des gens qui sont très proches de nous. Ce sont des cas d'exception. Alors vous avez ces distinctions qui sont expliquées un peu, différentes dans le Polycopier, la page 96. Donc, la grande idée dans le vœu de pauvreté, donc, qui est un vœu que nous faisons contre la concupiscence des yeux, donc, qui va nous permettre de nous détacher des biens de ce monde, eh bien, suit le conseil de notre Seigneur Jésus-Christ, un conseil évangélique. Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Attention, il faut distinguer entre les choses d'obligation, par exemple les 10 commandements qui sont obligatoires pour tout le monde, et les conseils que notre Seigneur Jésus-Christ va donner à certaines personnes, aux religieux par exemple. Les 3 vœux de pauvreté, chasteté et obéissance ne sont pas obligatoires pour tous les hommes. Seuls ceux qui sont appelés à une vocation spéciale vont devoir remplir ces vœux. Celui qui donne aux pauvres tout ce qu'il possède ne donne pas seulement le superflu, mais le nécessaire. Donc, dans certains cas, dit saint Thomas, on peut faire l'aumône de son nécessaire s'il y a vraiment une raison proportionnée. S'il n'y a pas cette raison proportionnée, je n'ai pas le droit de donner le nécessaire dont j'ai besoin pour remplir mon devoir d'État par rapport, par exemple, à mes enfants ou aux gens dont j'ai la charge. Donc vous avez ces distinctions qui sont ici exprimées donc à partir des textes de saint Thomas, à la page 96, donc en bas de la page sur le polycopier. Celui qui serait réduit à n'avoir que l'indispensable pour vivre avec ses enfants et sa famille ne peut en faire l'aumône, ce serait sauter la vie à lui-même et aux siens. Bon. Cependant, on voit très bien dans la vie des saints combien des saints qui faisaient l'aumône parfois de leur nécessaire, eh bien, recevez des dons extraordinaires pour combler justement ce trou financier qui était très important pour la famille. Moi, je l'ai vu constamment en tant que prêtre. À chaque fois que je fais une aumône importante pour aider quelqu'un qui est dans le besoin, ça nous arrive de temps en temps que des gens viennent frapper à notre porte, des gens qu'on connaît, hein, qui nous téléphonent, qui nous demandent: Monsieur l'abbé, j'ai vraiment un problème, il y a ça, ça et ça qui m'arrive, est-ce que vous pouvez m'aider? Bon, mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que je fais un acte de charité pour aider cette personne qui est dans le besoin, que je connais, eh bien, pratiquement à chaque fois, dans les jours qui suivent, j'ai un don qui arrive et qui va correspondre en général à la somme que j'ai donnée pour aider la personne qui était dans la difficulté. La règle générale que donne saint Thomas est de toujours garder ce qui est indispensable pour vivre selon les exigences normales de sa condition de vie, de son état de vie. Parce que, dit saint Thomas, personne n'est obligé de vivre d'une façon qui ne conviendrait pas à son état. Un roi, par exemple, a un devoir de gouverner. Il a un devoir de magistère, de ministère, de gouvernement. Il a le devoir d'instruire, le devoir de sanctifier. Il a le devoir de gouverner, bien sûr. Et donc, il doit garder les choses dont il a besoin pour pouvoir gouverner normalement. Cependant, en haut de la page 97, saint Thomas précise que dans les cas d'extrême nécessité, tous les biens sont communs. C'est-à-dire dans un cas de danger de mort, lorsqu'il y a une question de vie ou de mort, eh bien à ce moment-là, on a le droit, je dirais, de passer même au-dessus de la loi de la propriété privée. Je suis en train de mourir, je cite ce cas souvent, je suis en train de mourir de froid dans la montagne, je suis perdu, la tempête de neige est là, je trouve un chalet qui se présente à moi, qui est complètement fermé, à moitié recouvert par la neige, et bien, est-ce que j'ai le droit de forcer un volet pour casser un carreau, pour rentrer dans le chalet, et puis pour m'abriter et trouver quelque chose à manger, sinon je vais mourir de froid et de faim. Oui, on a le droit de le faire. On a le droit de le faire. En charité, je ne dis pas... En charité, pas en justice. En justice, strictement parlant, vous n'êtes même pas tenu de faire réparation. Cependant, en charité, il est important dans un cas comme ça, après, lorsque la situation s'est rétablie, lorsque la tempête de neige s'est arrêtée, eh bien, c'est de retrouver, bien sûr, le propriétaire du chalet pour réparer les dégâts que vous avez dû commettre et pour rendre la nourriture que vous avez mangée pour sauver votre vie. Bien. Mais même dans un cas comme ça, ce n'est pas une obligation en justice, puisque, encore une fois, dans le cas d'extrême nécessité, tous les biens sont communs. En cas de danger de mort, ce n'est pas un vol pour moi de prendre de la nourriture dans un chalet que je suis obligé de forcer pour pouvoir me nourrir. Bon, encore une fois, la prudence va intervenir pour nous demander... là, d'exercer la charité et de réparer autant que faire se peut le dommage que involontairement, si vous voulez, j'ai commis sur la personne du prochain. Alors, il y a des règles importantes qui sont en haut de la page 97. Il est donc permis à celui qui se trouve dans une telle nécessité, une extrême nécessité, de prendre à autrui ce dont il a besoin pour sa subsistance s'il ne trouve personne qui veuille le lui donner. Pour la même raison, il est permis de détenir quelque chose du bien d'autrui et d'en faire l'aumône, et même de le prendre s'il n'y a pas d'autre moyen de secourir celui qui est dans le besoin. Cependant, quand on peut le faire sans péril, on doit venir en aide à celui qui est dans une nécessité extrême après avoir recherché le consentement du propriétaire. Il est évident que si j'ai le moyen... Il y a un numéro de téléphone, par exemple, sur la porte du chalet. J'ai le moyen de prévenir le propriétaire. Voilà, je suis en train de mourir de faim. Je suis à la porte de votre chalet. Je m'excuse, mais je vais être obligé de casser une fenêtre pour rentrer. Sinon, je meurs de faim et de froid. Il faut le faire. Et là, saint Thomas a une phrase très belle. Il y a deux phrases importantes dans ce paragraphe en haut de la page 97 sur le polycopier. Dans le cas d'extrême nécessité, tous les biens sont communs. J'ai déjà expliqué. Deuxième phrase importante. C'est en effet l'ordre de la nature que les êtres inférieurs soient réglés par les supérieurs. Alors essayez de prononcer cette phrase dans le monde moderne et vous allez vous faire agoniser d'injures. Comment, qu'est-ce que c'est que ça? Depuis quand y a-t-il des différences entre les êtres inférieurs et les êtres supérieurs? Vous êtes un néo-nazi, un admirateur des fascistes ou je ne sais quoi. Mais c'est du bon sens élémentaire. Les êtres sont différents. Les enfants ont des devoirs, les parents ont des devoirs, mais qui ne sont pas les mêmes que ceux des enfants. Et les enfants ont d'abord le devoir d'obéir à leurs parents, et les parents ont le devoir de commander à leurs enfants pour aider leurs enfants à aller au ciel. Donc les êtres inférieurs sont réglés par les supérieurs. Et s'il y a une telle pagaille dans notre société actuelle, eh bien c'est précisément parce que les gens n'ont pas appris, comme enfants, à obéir à leurs supérieurs. Parce qu'ils se considèrent tous comme égaux. Alors, saint Thomas précise que les actes des vertus ne doivent pas être faits n'importe comment, mais en observant toutes les circonstances requises pour que l'acte soit vraiment vertueux, qu'il soit fait où il faut, quand il faut et comme il faut. Encore une fois, là, deux choses sont importantes, le don de sagesse, la vertu de prudence, puis aussi le don de conseil. Le don de conseil, c'est celui qui a le don de conseil, c'est celui qui est capable de s'asseoir pour réfléchir à ce qu'il doit faire. Ne pas foncer à toute vitesse dans une direction sans prendre d'abord le temps de réfléchir pour savoir qu'est-ce que je dois faire à cause des circonstances actuelles qui sont celles dans lesquelles je suis actuellement. Et donc il faut faire attention à tout cela. Alors saint Thomas d'Aquin va continuer ses explications. Je vais rapidement donc donner le résumé des autres chapitres, des autres articles de ces questions, puisque la première question, la prochaine question sur laquelle je m'arrête dans le polycopier, c'est la question 34, article 1. Donc je vais rapidement vous expliquer ce qui est entre eux. La question 32, article 6, et la question 34, article 1. Alors, il y a des détails hein, qui sont importants. Je passe assez vite, mais il y a quand même des choses importantes. Article 7 de la question 32. Peut-on faire l'aumône avec des biens illicitement acquis? Est-ce que j'ai le droit de faire l'aumône, par exemple, avec des biens que j'ai volés hein? Il y a des biens, dit saint Thomas, illicitement acquis, qui sont dus à leur maître sans que l'acquéreur puisse jamais les retenir. C'est le cas de la rapine, du vol, de l'usure. L'aumône ne se fait pas avec de tels biens, on est tenu de les restituer. Donc on n'a pas le droit de faire l'aumône avec des biens qu'on a volés, parce que ce sont des biens qui ne nous appartiennent pas. Encore une fois, dans les cas d'extrême nécessité, tous les biens sont communs, la règle est différente. Il y a des biens illicitement acquis que le possesseur ne peut point garder, quoiqu'il ne doive pas les rendre à celui dont il les tient. L'un et l'autre ayant agi contre la justice. C'est-à-dire que si, il donne l'exemple de la simonie. Hein, si quelqu'un a donné de l'argent pour obtenir un pouvoir spirituel, eh bien, il a péché gravement. Et dans ce cas-là, celui qui donne le pouvoir et celui qui reçoit le pouvoir spirituel, tous les deux transgressent gravement la loi divine. Donc, ces biens doivent être employés en aumône. Donc, si j'ai. Heureusement, c'est des choses qui ont quand même, j'espère, disparu dans le monde moderne. Avant, malheureusement, il y avait parfois des évêques qui se faisaient littéralement payer pour les ordinations. Bon, eh bien, c'est évident que c'est un péché grave de simonie. On retrouve un petit peu ça quand même, parfois, malheureusement, dans certains clercs, hélas, qui littéralement se font payer pour une confession, pour une messe, pas pour une messe, pour un baptême, pour un mariage. Bon, il est évident, ça c'est autre chose, qu'on a le droit, en tant que prêtre, d'accepter un honoraire de messe, puisque le prêtre a besoin évidemment de biens aussi, de biens pécuniaires pour pouvoir vivre tout simplement. Et ça c'est une paire de chaussures quand il vaut, une soutane de temps en temps quand il faut la changer. Eh bien, il est évident qu'il a donc l'Église a toujours accordé le pouvoir au prêtre d'accepter des honoraires de messe. Une fois que la messe est dite, l'honoraire des messes, de la messe célébrée appartient au prêtre, et le prêtre peut l'utiliser pour remplir son devoir d'État et pour payer les factures qu'il doit payer. Par contre, il y a des biens illicitement acquis, non que l'acquisition elle-même ait été injuste, mais parce que le moyen dont on s'est servi est mauvais. C'est une question qu'on nous pose assez souvent. Comme lorsqu'une femme obtient un bien par la prostitution, c'est ce qu'on appelle proprement le gain honteux. Écoutez la sagesse de la réponse de saint Thomas. Cette femme a péché contre la loi de Dieu en se livrant au crime, au crime d'adultère ou de fornication, mais en recevant ce qu'on lui a donné, elle n'a pas commis d'injustice. Elle peut donc retenir ce qu'elle a acquis illicitement et l'employer en aumône. Dans ce cas-là, elle a le droit de garder l'argent qu'elle a acquis par un trafic honteux. Mais attention, le trafic reste honteux et elle est toujours coupable du péché grave qu'elle a commis. De même, le client de cette personne est aussi responsable devant Dieu. Donc, toutes choses étant communes dans l'extrême nécessité, on peut donner donc l'aumône avec le bien d'autrui à un homme qui va mourir, par exemple, si on n'a pas d'autre moyen de lui sauver la vie. Quand on le peut sans péril, on doit obtenir la permission du maître. J'ai expliqué tout ça. Donc, j'avance. Article 8 de la question 32. L'homme qui est sous la puissance d'un autre a-t-il le droit de faire l'aumône? Encore une fois, on voit bien, simplement par le titre de cette question, que l'égalité n'existe pas dans l'esprit de saint Thomas. Il y a des hommes qui sont sous l'autorité d'autres personnes. Les enfants sont sous l'autorité des parents. L'épouse est sous l'autorité du chef de famille. Ça ne veut pas dire que le chef de famille a le droit de traiter l'épouse comme une esclave, évidemment. Bien sûr que non, il doit l'aimer comme le Christ a aimé son Église. Mais c'est quand même lui le chef de famille et qui est donc responsable. Il ne faut pas oublier ces choses-là. Si dans un accident de voiture, le père et la mère meurent ensemble dans l'accident de voiture, malheureusement, mais c'est le père qui sera jugé le premier. Pourquoi? Parce qu'il a plus de responsabilités. Et il peut être coupable de terribles péchés de scandale parce qu'il n'a pas rempli son devoir d'État et que ses enfants vivent tous en péché mortel à cause du libéralisme des parents. Mais le père de famille étant chef de famille a bien plus de responsabilités que l'épouse, la mère de famille. Donc, dans certains cas, dit saint Thomas, l'homme qui dépend d'un autre ne doit user des choses pour lesquelles il dépend que selon la permission de son supérieur. Quand un religieux, par exemple, dans la façon dont il fait l'aumône, il doit remplir les constitutions de l'ordre dans lequel il est rentré. C'est différent, encore une fois, pour chaque couvent. Un franciscain, par exemple, n'a pas le droit de garder de l'argent personnel. Il doit tout donner à ses supérieurs et s'il doit faire l'aumône, il doit faire l'aumône avec l'argent de la communauté et avec l'autorisation du supérieur de la communauté. Donc un moine ne peut faire l'aumône que dans les limites tracées par son supérieur. Or, la permission expresse ou la volonté raisonnablement présumée de son supérieur, il ne peut rien donner. Donc, il est évident que si un moine franciscain qui est sous un vœu de pauvreté se retrouve dans un cas où il doit aider quelqu'un qui est dans un cas d'extrême nécessité, il a le droit de supposer la permission de son supérieur. Il aide avec l'argent qu'il a dans le portefeuille de la maison, par exemple, la maison religieuse à laquelle il appartient, et après prévient son supérieur. Voilà, je me suis retrouvé dans un cas d'urgence, une personne était dans un cas d'extrême nécessité pour moi, je l'ai aidé avec l'argent de la communauté, telle façon. Moi, il n'y a pas de problème. Article 9, je passe assez vite, ce sont des questions faciles. Devons-nous de préférence faire l'aumône à nos proches? Donc, saint Thomas va citer saint Augustin, « Ceux qui nous sont naturellement unis, nous sont en quelque sorte offerts par la Providence pour que nous sachions pourvoir à leurs besoins. » Donc, un devoir de commencer à aider d'abord ceux qui nous sont proches, savoir notre épouse ou notre époux ou nos enfants. Donc nous devons, dit saint Thomas, faire l'aumône à quelqu'un beaucoup plus saint, à celui qui se trouve dans une plus grande indigence ou qui est plus utile au bien général. Donc dans toutes choses égales, nous devons plutôt venir au secours des nôtres. Donc d'abord, la charité ordonnée à l'égard de ceux qui nous sont proches. Il est évident, même si ça fait hurler certaines personnes, qu'il y a donc le devoir de préférence nationale, de commencer par aider les gens de notre pays avant d'aller aider les gens du pays voisin, c'est évident. Article 10 de la question numéro 32. L'aumône doit-elle être abondante? Si vous avez beaucoup, dit Tobie à son fils, donne beaucoup. Donc évidemment, tout ça va dépendre de notre devoir d'État. Et notre Seigneur Jésus-Christ fait remarquer une pauvre veuve à ses apôtres qui, dans son indigence même, avait donné tout ce qu'elle avait. Il faut se rappeler toutefois les principes émis plus haut au sujet du nécessaire. C'est celui qui reçoit, L'aumône est abondante de deux manières. D'abord, quand elle supplée suffisamment à son indigence, à ce moment-là, il ne faut pas recevoir plus. En second lieu, lorsqu'elle crée chez lui un superflu, et dans ce cas, elle est blâmable. En la répandant sur plusieurs indigents, la rendrait plus utile. Encore une fois, il faut distinguer les choses. Il y a, si mes souvenirs sont exacts, dans la vie de Saint François, une histoire comme ça, où dans un couvent, un jour, il y avait eu des dons importants, supérieurs aux besoins de la journée, pour les membres de ce couvent, pour les frères du couvent. Alors le frère en charge avait dit, c'est très bien, comme ça on va garder des économies pour demain. Aujourd'hui on aura à manger, puis le reste je garde pour demain. Et Saint François l'a su et n'était pas content du tout en disant, mais non, vous n'avez pas le droit de faire ça, parce que c'est contre l'esprit de pauvreté. Demain Dieu pourvoira, et le superflu il faut le donner aux pauvres. Il a exigé à ce que ce superflu soit donné aux pauvres. Donc on doit donner, c'est la règle, à l'indigent de quoi vivre, mais non pas de quoi vivre avec luxe. Il faut considérer dans l'aumône l'âge, la faiblesse de la personne qui reçoit, parfois aussi la honte qui trahit une origine plus élevée. Et donc si quelqu'un qui est une personne de condition se retrouve dans une misère noire, eh bien il y a un devoir de charité qui va être un peu différent. Il faut parfois savoir aider certaines personnes de façon discrète. De façon discrète, moi ça m'est arrivé plusieurs fois en tant que prêtre, je savais que telle personne était dans la misère noire à cause d'un accident, à cause d'un gros problème de famille, et cette personne, par honneur, si vous voulez, au sens de l'honneur, refusait de me le faire savoir. Et était vraiment dans presque l'extrême nécessité. Et une personne de la famille m'avait prévenu, vous savez, madame un tel, monsieur un tel, la famille là, est vraiment dans la nécessité parce que il y a eu des malversations qui ont été faites contre la famille, ils se retrouvent vraiment avec plus rien pour nourrir les enfants, mais ils n'osent pas vous le dire. Et à ce moment-là, bon, j'ai pu intervenir pour aider cette personne directement ou indirectement. Alors, voyons maintenant la question 33 de la correction fraternelle. Donc, c'est un point important. C'est un acte de vertu de charité, correction fraternelle. C'est-à-dire, a-t-on le droit de faire une remarque à quelqu'un d'autre pour aider l'âme de la personne? C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre la correction fraternelle. Saint Thomas va expliquer ces distinctions. Donc, question 33 de la correction fraternelle, article 1. Donc, je vais rapidement m'arrêter sur les parties plus importantes. Article 1, la correction fraternelle est-elle un acte de charité? La correction fraternelle, dit Saint Thomas, est ou un acte de charité ou un acte de justice, suivant les circonstances où elle s'accomplit. Et dans certains cas, la correction fraternelle est un devoir. Par exemple, un père de famille a un devoir de faire une remarque, par exemple, à son enfant, à son adolescent à la maison, s'il constate que l'adolescent file un mauvais coton et commence à prendre des très mauvaises habitudes. A-t-elle pour but de remédier un péché nuisible à son auteur, elle est un acte de charité à plus juste titre que l'action par laquelle on épargne à quelqu'un une perte extérieure ou une souffrance corporelle. A-t-elle pour fin de remédier à un péché qui porte préjudice à quelqu'un, et surtout à la société, elle appartient à la justice, dont le devoir est de maintenir l'équité parmi les hommes. Donc dans certains cas, la correction fraternelle est un devoir de justice. Il y aura un devoir sous peine de péché. Dans d'autres cas, c'est un devoir de charité. Alors faire attention, parce que c'est une phrase qu'on ressort très souvent, correction fraternelle, je connaissais quelqu'un comme ça, je ne donne pas son nom, mais qui était toujours en train de dire, vous me permettrez d'accomplir un acte de justice, un acte de charité à votre égard, et de faire une correction fraternelle pour vous, pour votre épouse, pour votre époux, pour vos enfants, et se permettait de faire des corrections fraternelles à longueur de journée à tout le monde. Il s'était mis tout le monde à dos dans la paroisse, parce qu'il était impossible. On a dû lui dire, le prêtre a dû lui dire, mais commencez par vous regarder dans une glace, monsieur. Commencez par avoir vos propres problèmes avant de vous occuper des problèmes du voisin. Alors, article 2 de la question 33, la correction fraternelle est-elle de précepte? Est-elle une obligation en justice? On a ce que répond saint Thomas d'Aquin. Si vous négligez, cite saint Augustin, si vous négligez de corriger le pécheur, vous devenez pire que lui. Alors, il faut distinguer, bien sûr. Il importe, dit saint Thomas, d'observer que la correction fraternelle est un principe affirmatif qui n'oblige pas en tout temps et en tout lieu. Encore une fois, la sagesse, le don de conseil, la prudence vont agir. Les actes de vertu doivent être accomplis en lieu convenable, en temps opportun et d'une manière appropriée à la fin qu'on se propose. Tel est le principe de la correction fraternelle. Comme il a pour but de ramener nos frères dans la voie du bien, il n'oblige que suivant la mesure propre à les corriger. Donc encore une fois, il faut faire certaines distinctions. Par exemple, l'omission de la correction fraternelle est méritoire dans certains cas, lorsque par un sentiment de charité, on la reporte à un temps plus favorable, de peur que le pécheur n'en devienne pire ou n'empêche les faibles de s'initier aux pratiques de la piété. Ça arrive souvent au prêtre, au confessionnal entre autres, de dire voilà, il faudrait que je dise telle chose à telle personne, mais manifestement, ce n'est pas le moment. Cette personne est trop énervée, là, si je dis quelque chose maintenant, je vais jeter de l'huile sur le feu, ça va faire pire que mieux. Donc j'attends. Bon. Cependant, il y a d'autres cas où l'omission de la correction fraternelle est un péché mortel. Lorsque, par crainte de l'opinion publique, des peines temporelles ou de la mort, on néglige celle qui est l'obligation. Un chat qui est très intéressé par saint Thomas d'Aquin. Elle est un péché véniel, cette omission de la correction fraternelle, quand la crainte ou la cupidité rendent seulement un homme plus lent à l'accomplir. Vous voyez, quand saint Thomas d'Aquin fait constamment des distinctions. Article 3, un article important. La correction fraternelle n'appartient-elle qu'aux supérieurs ? Est-ce qu'il n'y a que les supérieurs qui sont tenus de faire cette correction fraternelle? Voilà ce que dit saint Thomas. La correction dont l'amélioration du pécheur est le but appartient à tous ceux qui ont la charité, qu'ils soient supérieurs ou inférieurs. Donc, dans certains cas, il peut y avoir des obligations de pratiquer la correction fraternelle à l'égard même de personnes qui sont au-dessus de nous. Tout homme doué d'un jugement saint, par exemple, ou d'une raison droite, possède sous ce rapport une sorte de supériorité qui lui donne le droit de reprendre ses frères. Cependant, encore une fois, attention à le faire dans les bonnes circonstances. La correction qui a pour fin le bien public et qui s'exerce quelquefois par la punition du coupable pour détourner les autres hommes du même péché n'appartient évidemment qu'aux supérieurs. Donc, il n'y a que les supérieurs qui ont pouvoir de jugement pour pratiquer la correction fraternelle dans des cas particuliers prévus par les lois d'État. C'est évident que n'importe qui n'a pas le droit de se faire justice lui-même pour un problème qui l'occupe ou qui occupe sa famille. Parce que si chacun commence à se faire justice pour ce qui le concerne, à ce moment-là, c'est la pagaille complète dans la société. On peut arriver à des abus tout à fait condamnables. Donc, encore une fois, il faut bien voir ça avec son devoir d'État. Donc, les personnes qui sont en charge, c'est ce que dit saint Thomas, les personnes qui sont en charge, donc qui ont une charge par rapport au bien public, ont l'obligation, évidemment, de pratiquer cette correction fraternelle à l'égard de ceux dont ils ont la charge. Il est évident que si un supérieur d'un couvent, d'un monastère, par exemple, voit un membre de ce couvent, un frère du couvent, une sœur du couvent, qui manque gravement à son vœu, par exemple, de pauvreté, eh bien, a le devoir de lui faire une remarque, puisqu'il est en charge. Article 4. Est-on tenu de corriger son supérieur ? Attention à cet article. Voyons les préceptes et les distinctions que fait saint Thomas, parce que certaines personnes dans la société cédévacantiste, un petit monde, ces deux vacantistes, pensent qu'ils ont les privilèges de la quatrième personne de la Sainte Trinité. Et donc, ils se prennent pour les maîtres du monde. Et se permettent de dire des tas de choses qu'ils n'ont même pas à dire parce que ce n'est pas leur devoir d'État de le faire. Ayez compassion, dit saint Augustin, cité par saint Thomas. Ayez compassion non seulement de vos égaux, mais encore de votre supérieur qui se trouve exposé à des dangers d'autant plus grands que son poste est plus élevé. C'est évident que plus quelqu'un est une charge d'âme importante, plus il a d'obligations. Un général d'armée a bien plus d'obligations qu'un simple, simple colonel. Un colonel a plus d'obligations qu'un simple caporal. Bon, mais c'est la même chose dans les choses d'État. Donc, plus quelqu'un est à un rang élevé dans une société, plus il est exposé à des dangers. Hein, c'était Saint Pie V qui, lorsqu'il était au début, il était simplement portier de son couvent. Et lorsqu'il a été nommé pape, il était presque désespéré en disant « Mais quand j'étais portier de mon couvent, c'était relativement facile pour moi de me sauver. Et maintenant, comment je vais faire pour me sauver avec une responsabilité pareille ?» La réponse, elle est que le bon Dieu donne les grâces d'État. Bon, pour la correction de justice, les inférieurs ne peuvent pas l'exercer vis-à-vis de leurs supérieurs, mais ils doivent accomplir celle de charité. Donc, dans certains cas, un inférieur pourrait faire une correction de charité à l'égard de son supérieur. Dans certains cas. S'il comprend que ça fera vraiment du bien, qu'il y a des chances que la personne écoute, dans certains cas, il faut le faire. Ils se souviendront toutefois, dit saint Thomas, qu'ils ont des mesures à garder. Ils mettront en pratique cette parole de l'apôtre, saint Paul à Timothée, « Ne reprenez pas un vieillard avec dureté, priez-le comme un père. » Alors, dans certains cas, s'il y a par exemple péril pour la foi, c'est un cas très fréquent aujourd'hui, s'il y a péril pour la foi, les inférieurs devraient reprendre publiquement leurs supérieurs, comme saint Paul, en donnant l'exemple à l'égard de Saint-Pierre qui était son chef. Saint-Pierre, dit Saint-Augustin, enseigna par son exemple aux hommes chargés de gouverner les autres à ne pas dédaigner les avertissements de leurs inférieurs. Mais encore une fois, il fallait qu'il y ait péril dans la foi. Y a-t-il obligation de par exemple, pour un catholique, de reprendre constamment toutes les bêtises et les hérésies multiples de Bergoglio à longueur de journée? Je pense pas. Ça sert strictement à rien puisqu'on n'a pas la même religion. Bon, qui nous sommes de la même religion, c'est autre chose. Nous sommes de deux religions complètement différentes. Si Bergoglio veut se damner, qu'il se damne, malheureusement, mais qu'il se damne tout seul, ça serait mieux quand même. Donc attention, encore une fois, à ne pas se prendre pour un grand justicier. C'est très fréquent dans la tradition, et se donner le droit de faire des remarques et une correction fraternelle en longueur de journée. Il faut la prudence, est-ce que c'est utile? Bon, il y a des fois où ça ne sert absolument à rien, sinon on s'énerver, vraiment risquer de manquer à la charité. Donc je pense que c'est important de pratiquer cette vertu de charité, vous voyez, on obtient beaucoup plus de biens spirituels par la charité, la véritable charité. C'est sûr qu'il y a des moments où il faut savoir faire des remarques, mais il faut aussi savoir les faire avec douceur, avec gentillesse. Il y a parfois, j'ai eu des cas très, très douloureux dont j'ai dû m'occuper comme prêtre, notamment quand j'étais en charge de chapelle, avec des dames par exemple qui se permettaient des au nom de la correction fraternelle des remarques qui manquaient gravement à la charité. Combien de fois par exemple il m'est arrivé de devoir intervenir parce que une dame de la paroisse, paroissienne assidue, qui venait à la chapelle depuis des années et des années et qui connaissait bien les règles de bienséance dans l'église, sous prétexte qu'une personne venait pour la première fois, une dame venait pour la première fois dans la chapelle sans voile sur la tête, se permettait d'aller chercher un voile à l'entrée de l'église dans le conteneur, la boîte qui contenait les voiles pour les personnes de visite, et allait lui mettre d'autorité sur la tête. « Madame, il faut mettre un voile ici. » Comme une fois, je lui dis, on ne dit rien au début. Parce que si vous agissez comme ça avec dureté, cette dame va se lever, partir et ne reviendra plus jamais. Et vous allez perdre une âme. Dans bien des cas, il aurait été bien plus charitable de ne rien dire. La dame arrive, vient pour la première fois dans la chapelle, elle regarde à droite, à gauche, tiens ici, toutes les dames ont un voile sur la tête. Ah, bon. Eh bien, le bon Dieu va parler dans son âme. Et puis, en général, elle revient par elle-même le dimanche suivant. Le dimanche suivant, elle a quelque chose sur la tête. Bon. Dans un cas particulier où, malgré le fait qu'elle commence à venir régulièrement à la messe, elle continue de s'habiller de façon provocante, par exemple, ou qu'elle refuse de mettre un voile à la chapelle devant le Saint-Sacrement, bon, à ce moment-là, la personne en charge, c'est-à-dire le prêtre, va devoir dire quelque chose, mais c'est le prêtre qui va le faire, pas le laïc. Alors, autre question, autre article. Un pécheur doit-il encourager un autre? Notre façon de poser la question, c'est est-ce qu'il faut être un grand saint pour faire des remarques aux autres? Et si c'était comme ça, on ne pourrait pas faire souvent des remarques. Hein? Le droit de corriger le pécheur, dit saint Thomas, appartient à tout homme qui possède la lumière d'une raison droite et saine. Mais les péchés dont on est soi-même coupable sont un grand obstacle à l'effet de la correction. Ils rendent indigne de remplir un semblable ministère. Il est évident que si on a derrière nous des tas de casseroles, eh bien, il faut faire un petit peu attention dans la façon dont on donne des conseils aux autres. Il n'appartient qu'aux hommes bons et vertueux de reprendre les vices chez les méchants. Le méchant, c'est un rôle usurpé. Cette usurpation, toutefois, n'est pas un péché dès que la correction est faite avec humilité. C'est-à-dire quand la correction doit être faite, par exemple, une personne est en charge d'une chapelle, par exemple, en charge d'une famille, eh bien, il doit faire quelque chose, il doit dire quelque chose quand quelque chose doit être dit. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il doit s'humilier constamment en disant « je ne peux rien faire parce que je suis un misérable, parce que j'ai commis tel et tel péché ». Non, même s'il a commis tel et tel péché, il reste chef de famille, par exemple. Même s'il a commis tel et tel péché, il reste en charge de sa chapelle, de sa paroisse. Il doit continuer à se sanctifier en remplissant son devoir d'État. Article 6. Doit-on, de la question 33, doit-on quelquefois omettre la correction dans la crainte que le pécheur n'en devienne pire? Voilà, il faut bien méditer les détails de saint Thomas d'Aquin. Ne reprenez point, dit la Sainte Écriture dans le livre des Proverbes, ne reprenez point celui qui se moque de peur qu'il ne vous haïsse. Hein? Donc il est juste, dit saint Thomas, de recourir au châtiment pour arrêter les désordres de ceux qui ne veulent pas se corriger d'eux-mêmes. Si on ne les corrige pas, on pourvoit du moins au bien commun en donnant une sanction à la justice et en effrayant par une punition exemplaire les mauvaises passions. Mais s'agit-il de la correction qui a proprement pour but l'amendement du pécheur? Celle-ci doit être omise lorsqu'il est probable que le pécheur la repoussera et tombera par là dans un état pire, ce qui n'est qu'un moyen pour arriver à une fin et subordonner à la fin elle-même. Vous voyez, on voit bien que là, encore une fois, saint Thomas d'Aquin fait les distinctions qui s'imposent. Bon, il est évident que l'exemple classique, c'est le berger qui constate qu'il a une brebis qui est malade dans le troupeau, qui a une maladie très contagieuse, et qu'elle va transmettre la maladie contagieuse à tout le troupeau, il faut qu'il fasse quelque chose. Hein, donc, il va la mettre de côté, essayer de la guérir. S'il n'y parvient pas, eh bien, il va la trucider, il va la tuer pour protéger le troupeau. Hein. Il est évident que certains crimes qui ont des conséquences terribles pour la société, eh bien, le chef de la société, avec les lois du pays, aurait le droit de déclarer, on verra ça plus tard, le droit de déclarer la peine de mort pour telle ou telle personne. Il est évident pour des criminels récurrents qui retombent toujours dans les mêmes fautes épouvantables, par exemple, je pense, des violeurs d'enfants, des choses comme ça, ou des violeurs tout simplement, qui retombent toujours dans les mêmes péchés épouvantables contre la société. Eh bien, dans certains cas, selon les lois justes du pays, quand il y en a, eh bien, le chef de cette société aurait le droit de déclarer qu'il vaut mieux que cette personne soit condamnée à mort plutôt qu'elle continue de faire un dégât épouvantable dans la société. Toute proportion gardée, c'est la même chose pour un père de famille qui pourrait, dans certains cas, si vous voulez, non pas. Il n'a pas le droit de vivre de mort sur ses enfants, bien sûr que non, mais il pourrait dans certains cas demander à un de ses enfants, qui est un adulte mais qui vit encore sous le toit paternel et qui donne un exemple épouvantable à tous les petits de la famille, c'est une famille nombreuse par exemple, un adulte qui a 20 ans, 25 ans, mais commence à donner un exemple lamentable aux petits de la famille, qui sont fragiles par définition parce qu'ils sont petits, eh bien, le père de famille aurait le droit de dire à son grand de 25 ans, 20 ans, écoute, puisque tu donnes constamment un mauvais exemple aux petits, je te demande de quitter la maison. Vous voyez, il aurait le droit. Donc, encore une fois, la vertu de prudence va intervenir dans un cas comme ça pour précisément aider les décisions à être prises comme il faut et quand il faut. Alors, autre... Je vais essayer de terminer cette question numéro 33. Donc, article 7. Dans cet article 7, Saint Thomas, article 7 de la question 33, Saint Thomas pose la question, est-il nécessaire que l'admonition secrète précède la dénonciation ? Alors, il va distinguer les choses. La règle générale qu'il donne, quand les péchés sont publics, ils doivent être pris publiquement. Un scandale public qui est donné, par exemple, eh bien, il faut que la justice demande à ce que le scandale public soit repris publiquement. Bon. Selon cette parole de l'apôtre, reprenez les pécheurs devant le monde afin d'inspirer aux autres une frayeur salutaire. Bon. Si les péchés sont cachés, il faut faire une distinction. D'accord ? Alors, première distinction. Quelques-uns nuisent au bien spirituel ou temporel de la société. Par exemple, lorsqu'un homme médite des trames clandestines pour livrer une ville aux ennemis, ou qu'un hérétique cherche en secret à pervertir la foi des fidèles, on doit alors procéder immédiatement à la dénonciation publique. Parce que là, encore une fois, le bien particulier est soumis au bien général. À moins que l'on ait la certitude d'arrêter le mal aussi vite par une admonition secrète. Donc si une admonition secrète suffit à arrêter le dégât, on s'arrête là. Mais pour ce qui est des péchés qui ne nuisent qu'à leur auteur et à nous, semblables au médecin du corps qui rend la santé aux malades sans rien amputer, et qui dans la nécessité retranche le membre le moins indispensable, celui qui se propose l'amendement de son frère doit, autant que possible, le corriger par des moyens secrets et sauvegarder son honneur. Donc c'est une règle importante en morale que toute personne a droit à son honneur, même si c'est strictement parlant injustifié. Vous voyez ? Donc on n'a pas le droit de rendre public un péché particulier, un péché privé. Sauf dans des cas où c'est un devoir d'État. Bon, l'exemple classique qu'on donne dans les manuels de théologie morale, c'est par exemple pour les élections. Si vous savez très bien que telle personne qui brigue les suffrages électoraux des habitants d'une ville est un voleur, vous le savez de façon privée, mais vous savez très bien que c'est un voleur, vous en avez toutes les preuves. Vous auriez le droit de prévenir les gens, les habitants de la ville, en disant « Attention, ne votez pas pour telle personne, c'est un voleur !» Même si c'est quelque chose de privé, à partir du moment où vous le savez, vous êtes certain, vous avez le droit de le dire. Il faut le dire. Bon. Dans d'autres cas, et ça c'est important, surtout encore une fois pour les sédévacantistes durs et purs qui se prétendent tous les droits, qui se donnent tous les droits possibles et imaginables, eh bien qu'ils comprennent qu'il y a des cas où il vaut mieux se taire et attendre pour que la charité puisse lentement amener le pécheur à récipiscence. Donc celui qui se propose l'amendement de son frère, encore une fois, autant que possible, doit le corriger par des moyens secrets, sauvegarder son honneur. Dans certains cas, on obtient bien plus en allant voir discrètement la personne pour aider, pour conseiller certaines choses. Dans d'autres cas, par exemple, faire connaître le péché de quelqu'un, c'est porter les autres hommes à l'imiter. Donc on n'a pas le droit de dévoiler le péché privé d'une personne sans une raison grave et proportionnée. Il y a des fois où cette raison est proportionnée, hein, mais pas toujours. Donc, attention. Encore une fois, je pense que la plupart des sédévacantistes tous ceux qui se croient maîtres et juges universels, eh bien, devraient se regarder dans une glace et ne pas oublier leurs propres conditions. Article 8. L'admonition devant témoin doit-elle précéder la dénonciation ? Seigneur, dit en Saint Matthieu, chapitre 18, prenez avec vous un ou deux témoins afin que toute l'affaire puisse être réglée devant l'Église. Le Seigneur veut que le frère corrige son frère en secret, cela seul. Bon. Voilà le premier terme. Il veut aussi que le coupable soit corrigé publiquement par la dénonciation de l'Église. Ça, c'est l'autre extrémité. Entre ces deux extrêmes, il convient de placer l'appellation des témoins. Là, le péché n'est connu que de quelques personnes qui concourent à l'amendement du coupable et on épargne à celui-ci l'infamie de la publicité. Vous voyez ? Donc, encore une fois, je pense que c'est important, surtout dans les milieux sédévacantistes, je m'excuse d'insister là-dessus, je dis souvent quand je prêche les retraites que le péché particulier des sédévacantistes, c'est les péchés contre la charité, hein. Les médisances, les calomnies qui circulent partout, et surtout avec Internet, c'est épouvantable. Les gens oublient complètement que la médisance est un péché. Beaucoup de nos fidèles, quand on fait des remarques, on est obligé parfois de faire des remarques, vous avez raconté telle chose à propos de telle personne. Pourquoi vous l'avez marqué sur inscrit, vous l'avez rendu public sur Internet ? Vous n'avez pas le droit. Parfois les gens disent, mais ce que j'ai dit est vrai, donc j'ai le droit. Mais non, monsieur. Une médisance, c'est quoi ? Une médisance, c'est un péché. Une médisance, c'est le péché par lequel je rends public une chose que je n'ai pas le droit de rendre publique. Donc, je dis du mal des gens, un mal qui est vrai, mais que je n'ai pas le droit de dire. Et il y a des cas où il y a l'obligation de garder le secret. Donc, il faut faire des distinctions. Entre un péché de médisance, c'est dire du mal de quelqu'un sans une raison proportionnée et un péché de calomnie qui est mentir sur la personne qu'on n'a jamais le droit de faire. Mais dans certains cas, un supérieur pourrait avoir le droit de dire du mal d'une autre personne s'il y a une raison proportionnée. Mais s'il n'y a pas de raison proportionnée, c'est absolument interdit. Si votre voisin, vous savez de façon privée que votre voisin vit dans le péché, vous n'avez pas le droit de répéter ça, sur la place du marché. Parce que c'est du domaine privé. Bien sûr, vous avez le devoir, si vous pouvez faire une remarque éventuelle à votre voisin pour aider votre voisin à changer de vie, ça c'est autre chose. Vous avez même parfois le devoir, hein, mais, ou l'obligation. Mais encore une fois, on n'a pas le droit de dire du mal des gens sans une raison proportionnée. C'est ce qu'on appelle le péché de médisance. Hein, que les gens pensent un petit peu à ça. Encore une fois, beaucoup de traditionnalistes fort à faire, qui prétendent tout savoir, encore une fois, devraient très sérieusement reprendre leur catéchisme, surtout les péchés, les catéchismes qui couvrent, par exemple, le commandement qui dit « tu ne mentiras pas ». Hein, toutes les mensonges, tous les manquements graves à la charité, les jugements téméraires, les médisances, les calomnies sont très très fréquentes dans les milieux de la tradition, malheureusement, et font un dégât considérable dans la société. La société, un petit microcosme qui est la société sédévacantiste. Parce que les gens racontent n'importe quoi. Ou se prétendent juges universels alors qu'ils ne sont pas juges, ils n'ont pas été nommés pour cela. Alors, question 34, donc je vais arrêter là parce que là on va retrouver dans la page 97 sur le polycopier le même article, question 34 de la Seconda Seconde, article 1, est-il possible d'avoir de la haine contre Dieu, hein? Donc c'est une question importante, hein? Donc là, saint Thomas maintenant a commencé dans toute une série d'articles pour parler des péchés qui s'opposent à la vertu de charité. Après avoir expliqué la vertu en long, en large et en travers, il va maintenant expliquer les péchés qui s'opposent à cette vertu de charité. Donc là, il va parler de la haine, d'abord de la haine de Dieu. Souvent, cette haine de Dieu se manifeste d'une façon un petit peu, sous des termes un peu différents, c'est ce qu'on appelle la haine de la vérité connue comme telle. Et bien, on va expliquer que c'est un péché contre le Saint-Esprit. Et souvent, lorsque les gens se maintiennent dans un péché de ce genre, eh bien, ils ne peuvent pas arriver à s'en tirer parce que justement, ils gardent leur la haine, une espèce de. Ils gardent le péché mortel en eux et ne peuvent pas s'en sortir à cause de cela. Donc, on va voir tout ça la prochaine fois. Donc, encore une fois, j'insiste pour toutes ces parties-là qui sont un petit peu difficiles. Relisez le texte du polycopier pour la partie qui correspond à ce que j'ai expliqué. Si vous avez le temps, réécoutez éventuellement une deuxième fois le cours. Je me rappelle quand j'étais au séminaire, il fallait qu'on reprenne certains cours qui nous avaient été donnés par les professeurs de séminaire. Il fallait les reprendre plusieurs fois pour arriver à bien les comprendre. Donc, moi, je ne suis pas un professeur extraordinaire. Je n'ai pas forcément toutes les capacités d'un... Je ne suis pas un grand professeur du tout. J'essaie de faire un travail aussi bien que possible, mais ce n'est pas forcément évident. Donc ça demande un travail personnel, ça demande pour moi un gros travail de préparation, de faire ses polycopiers, de préparer ses cours, mais je pense que j'ai le droit en quelque sorte de demander à ceux qui écoutent ces cours sur internet de correspondre à cette étude que je fais moi-même en travaillant eux-mêmes le cours à partir du polycopier et à partir de l'enregistrement que vous avez sur internet. Pour ceux qui ont la somme de Saint-Thomas d'Aquin, n'hésitez pas. Je connais certaines personnes qui suivent les cours avec la somme devant eux, ouverte sur la table, pour pouvoir suivre plus facilement les textes de Saint-Thomas d'Aquin. Voilà, nous allons terminer par une prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.